Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
Les violents combats ont repris depuis tôt ce matin à Murambi dans le Nord Kivu. Ils opposent l'armée au M23 soutenue par l'armée rwandaise. On signale la panique et des déplacements de la population locale à la suite des détonations des bombes. Plusieurs sources déplorent ces combats qui violent le cessez-le-feu censé commencer depuis le 7 mars. La délégation du Conseil de sécurité arrivée hier soir à Kinshasa est en réunion ce vendredi avec le Premier ministre Samalou Kondé. Au menu de leurs échanges, entre autres, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le processus électoral. Plusieurs ministres ont également pris part à cette rencontre. Et puis, l'invité de ce midi, Essa Bekamulete, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Il nous parle des causes de la surpopulation à la prison centrale de Makala à Kinshasa, des solutions préconisées et ce qu'il faut pour les décisions judiciaires non exécutées. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des combats à l'arme lourde sont signalés depuis ce vendredi matin vers les collines surplombant Sake, environ 8 km de la cité. Des sources concordantes sur place rapportent qu'une bombe est tombée ce matin à Mubambiro, tout près de la base des casques bleus de la MONUSCO, sémant à nouveau la panique et des déplacements de la population. Des détonations des bombes qui sont larguées de part et d'autre par les deux forces ne font qu'accroître la psychose, indique la société civile de Kamuranza qui demande à l'armée de sécuriser la population. Le point avec Noëlla Luzitukabambi.
D'après plusieurs sources à Sake, des combats violents ont repris depuis 5 heures dans le village Murambi, à 8 km de Sake, dans le groupement Kamuranza. Ces combats qui opposent l'armée au M23, soutenu par l'armée rwandaise, continuent à menacer la cité de Sake ainsi que l'axe Kirotche, Bwerema, Naminova, après de violents affrontements enregistrés dans les collines des Chacha il y a 2 jours. Le président de la société civile de Kamuranza demande à la population de se mettre à l'abri pour éviter d'être victime des obus qui tombent dans divers quartiers de Sake, Mubambiro. Léopold Mouisha affirme qu'un obus est tombé ce matin à Mubambiro, où sont cantonnées plusieurs forces, notamment celle de l'EAC, mais aussi une base de la MONUSCO. Ce dernier appelle également le gouvernement à sécuriser la population, y compris les déplacés, qui se retrouvent abandonnés sans nourriture, sans eau, sans abri et obligés de fuir à tout bout de champ. Plusieurs autres sources déplorent ces combats récurrents dans la région de Sake en violation du cessez-le-feu qui était censé commencer depuis mardi le 7 mars, cessez-le-feu exigé par tous les mécanismes en cours. Notez qu'une accalmie relative s'observe sur l'axe routier Sakiminova et le trafic est normal sur cet axe toujours contrôlé par l'armée.
Par ailleurs, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO condamne avec la plus grande fermeté les tueries ignobles de plusieurs dizaines de civils survenues à Mukondi et Maswa, 20 km de la ville de Beni. Dans un communiqué rendu public ce vendredi matin, Madame Bintou Keïta exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. La chef de la MONUSCO rappelle l'engagement de la mission onusienne à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. La délégation du Conseil de sécurité arrivée hier soir à Kinshasa est en réunion ce vendredi avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à l'hôtel du gouvernement. Au menu de leurs échanges, certainement la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC et le processus électoral. Plusieurs ministres ont également pris part à cette rencontre. C'est notamment le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication et des Médias et le ministre des Droits humains. Dans la suite, il est prévu que la délégation du Conseil de sécurité rencontre les présidents des deux chambres du Parlement, la classe politique et la société civile, ainsi que le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Nicolas Delarivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité. Il s'est confié à Radio Okapi à leur descente d'avion hier soir à l'aéroport de Ndjili, propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Le Conseil de sécurité n'était pas venu en République démocratique du Congo depuis 2018, c'est pourquoi avec mon collègue du Gabon, nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Le Conseil va rencontrer bien sûr les autorités congolaises, il va rencontrer les autorités politiques, militaires, les organisations humanitaires, la société civile. C'est une visite importante, elle se déroule dans un contexte difficile, comme vous le savez tous, puisque les groupes armés sont actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, causant des dommages graves aux populations. Des milliers de personnes souffrent actuellement actuellement. Il faut leur venir en aide. Il y a une crise humanitaire sans précédent, bien entendu, plus un pillage des ressources naturelles. Donc le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Nous allons regarder ce que les Nations Unies à MONUSCO peuvent faire. Nous allons faire le point sur les initiatives régionales, sur le plan politique. Nous allons évidemment faire le point sur la situation dans l'Est. On souhaite que les combats cessent, que les groupes armés déposent les armes, tous, que les groupes armés soutenus par l'étranger se retirent et que les éléments étrangers se retirent aussi.
Entre-temps, le coordonnateur de PDDRCS, Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, appelle les responsables des partis politiques du Sud Kivu à s'impliquer dans le processus de reddition des groupes armés. Tommy Tambwe s'est exprimé ainsi jeudi lors de la rencontre avec les partis politiques en présence des responsables des affaires politiques de la MONUSCO. Les propos du coordonnateur national du PDDRCS ont été recueillis par Emmanuel Elamenji.
Nous sommes ici dans cette province dans le cadre des armements, des mobilisations et des réinsertions des ex-combattants. Travailler avec les communautés pour que les choses aillent vite. Les partis politiques sont des acteurs. Ils gèrent ce qu'ils appellent la base. Et dans la base, ce sont les communautés. Nous avons voulu les sensibiliser pour travailler pour le désarmement afin que nous ayons la reddition des groupes armés rapidement. Mon rôle est de faire l'évaluation et voir si les sites sont déjà disponibles pour que le moyen soit donné. Notre message est le même, c'est le message du chef de l'État. Le message de dire il y a un temps pour rester de la brousse, mais il y a un temps également pour sortir de la brousse. S'ils veulent être véritablement dans la réserve de l'armée de défense, la voie est là. Ils savent que la voie idéale pour eux, c'est passé par le PDDRCS. Aujourd'hui, le gouvernement demande à tout le monde de se manifester, de se rendre, soit auprès du chef coutumier, soit auprès de l'unité de l'armée, soit à la MONUSCO, et ils seront reçus.
En réaction, les animateurs des partis politiques se disent disposés à sensibiliser leurs militants pour la réussite du programme PDDRCS. Pendant ce temps, dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe, le village de Kinsele s'est complètement vidé de ses habitants après l'attaque des hommes armés le mercredi dernier. Des actes de pillage, de vandalisme et de destruction des biens ont été enregistrés, indiquent les habitants en fuite. La société civile de Kwamout affirme que de nombreux habitants tentent à pied de rejoindre Kinshasa, la capitale. Les autres se sont dirigés vers différentes entités. D'autres encore se cachent dans la forêt. Cette structure citoyenne alerte sur un drame qui peut de nouveau couper le trafic entre Kinshasa, Kwamout et Bandundu sur la nationale numéro 17, car depuis mercredi, il n'y a plus de circulation des véhicules sur cet axe routier, signale le président de la société civile de Kwamout. Plus de détails avec Irène Boma.
L'insécurité dans les territoires de Kwamout, on en parle encore après les affrontements des hommes armés mercredi dernier, notamment au village Kinsele situé sur la RN17, ayant occasionné la mort de plus de 15 personnes. La société civile de ces territoires indique que pour l'instant, ce village est totalement vidé de sa population qui s'est déplacée massivement dans tous les sens. Martin Souta, président de cette société civile, s'est dit préoccupé par la situation des femmes et des enfants fuyant sur la RN17 qui, selon lui, n'a pas connu de trafic depuis mercredi.
La population est maintenant en débandade, c'est-à-dire qu'ils sont en déplacement. Donc les conditions qui se trouvent maintenant, c'est très dangereux. Comprenez, les enfants et les mamans, toutes les familles sont maintenant en mouvement. Ils sont maintenant les uns dans la forêt, les autres en route. On ne sait pas à quelles conditions vont-ils se déplacer jusqu'à se trouver un bon refuge. Les véhicules qui empruntent cette tronçon sont vraiment bloqués. Il n'y a pas la circulation normale à ce niveau-là, Kinshasa, Bandundu.
Certains habitants de Kinsele en fuite témoignent que des actes de pillage, de vandalisme et de destruction des biens ont été commis par ces assaillants munis de plusieurs armes dont les flèches et qui auraient même annoncé leur incursion. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Processus électoral dans la province du Maniema avant la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Certains requérants se plaignent déjà de la qualité de la carte d'électeur qu'ils ont reçue. Selon certains d'entre eux, les écrits de la carte commencent déjà à s'effacer. Plus le temps passe, plus ils risquent de se retrouver avec une carte vierge et donc inutile, disent-ils. D'autres déplorent la longueur du temps qu'ils passent devant les centres d'inscription pour obtenir la carte d'électeur. D'autres encore dénoncent le monnayage et le favoritisme des agents de la Ceni. C'est un reportage de Florence Kiza.
Une dame que nous avons rencontrée au centre Kindouville témoigne avoir fait 5 jours avant d'obtenir sa carte de lecteur.
C'est après 5 jours que je viens de m'enrôler. C'est pénible ici. Certains paient de l'argent, mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma carte après 5 jours.
Les autres disent que depuis le début du processus, ils se présentent au centre d'inscription, mais n'ont jamais eu la chance de se faire enrôler.
Depuis qu'on a commencé l'enrôlement, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu les cartes de lecteur. On s'efforce pour que nous on arrive à te faire enrôler. Pour le moment, il y a beaucoup de gens, mais il y a aussi la lenteur de la machine. Et encore plus, la connaissance, on passe devant.
Pendant ce temps, ceux qui ont eu la chance de se faire enrôler affirment que bientôt leurs cartes ne pourraient plus servir puisque les écrits s'effacent déjà.
Je suis très désolé par rapport à la qualité de cette carte. Vous voyez vous-même, madame, comment les visages sont effacés, les identités également. Donc, on n'a pas encore atteint même 1 mois. Je ne sais pas dans 2 mois si j'aurai une carte ou soit je dois rester un Congolais sans carte. Et au besoin même, on me remette ma carte, l'ancienne carte.
La CENI Maniema demande à la population de s'apaiser. Elle va faire remonter cette question à sa hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction l'Ituri, les activités tournent au ralenti à l'hôpital général de référence de Fataki, situé à 105 km de Bunia. C'est à la suite de l'insécurité caractérisée par l'activisme des groupes armés dans cette région. Non seulement cette structure a des difficultés pour son fonctionnement normal, mais aussi les malades ne la fréquentent presque plus comme auparavant, cela après l'attaque de la milice Codeco en juin 2021. Martial Kizabiamungu a visité cet hôpital, voici son reportage.
Construit en 1930, l'hôpital général de Fataki a accueilli pendant plusieurs années des milliers de malades à provenance de plusieurs villages du territoire de Djougou. Mais aujourd'hui, la structure de santé qui apparaît bien délabrée n'accueille plus grand monde. À la maternité, par exemple, où nous avons compté une dizaine de lits, il n'avait aucune femme. Depuis l'attaque de groupes armés en juin 2021, le directeur de l'hôpital dit avoir observé une baisse de la fréquentation dans tous les services. Les médecins responsables de cet hôpital, Aimé Bayati Kodjo, lancent un cri d'alarme.
Les déplacements de la population, nous avons perdu beaucoup de nos clients. Les femmes, oui, qui accouchaient. Il y a aussi les sécurités. Beaucoup de femmes préfèrent aller accoucher soit à Boulay. Et là, vous sentez vraiment, il y a une grande masse là de la population.
Exposés et par crainte de nouvelles attaques des hommes armés, les habitants de la région préfèrent aller se faire soigner au centre de santé des références de Boulay, situé à environ 20 km de Fataki, où ils estiment être en sécurité. Du retour de Fataki, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, cette flambée du prix de la farine de maïs à Lubumbashi, un sac de 25 kg se négocie actuellement à 55 000 voire 60 000 francs congolais, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. La farine mise sur le marché par le gouvernement provincial au prix de 20 000 francs congolais ne parvient pas à résoudre le problème. Pour cela, le responsable de l'association des commerçants opérant à l'étranger plaide pour que le gouvernement leur accorde l'exonération pour toute importation de la farine de maïs en vue de lutter contre cette hausse de prix. On écoute Edouard Soumaïli, président de cette corporation, au micro de Jean Gando.
Il y a une soudure agricole en Zambie. Souvent, nous achetons la farine en Zambie. La Zambie n'a pas encore eu la récolte. Nous sommes en pourparler avec nos amis de l'Afrique du Sud que le gouvernement nous accorde l'exonération. Avec ces documents-là, nous allons nous-mêmes nous battre pour que cette période, que la farine soit quand même à un bon prix, parce que si aujourd'hui la farine coûte plus même de 55 000 francs, de 60 000 francs, ce n'est pas tout le monde qui peut en avoir. Les commerçants, certains ont décidé d'aller directement en Afrique du Sud. S'il y a un problème de carence ou de crise à cause de la soudure agricole, c'est l'Afrique du Sud qui nous vient en aide souvent. Ici, chez nous, c'est la période de mois de mai qu'on commence déjà cette récolte. Mais est-ce que nous pouvons attendre jusqu'au mois de mai? Chacun a besoin de manger chaque jour. Nous ne demandons pas que le gouvernement nous donne l'argent. Nous allons, avec notre argent nous-mêmes, nous allons chercher comment approvisionner la ville de Lubumbashi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Burundi. 24 personnes ont été inculpées par un tribunal pour pratiques homosexuelles, ont indiqué à l'AFP une source judiciaire et un militant des droits humains de ce pays qui mène une campagne répressive contre les homosexuels. Après des interrogatoires qui ont duré une dizaine de jours, 17 hommes et 7 femmes ont été inculpés pour pratiques homosexuelles et incitation aux pratiques homosexuelles par le ministère public avant d'être écroués à la prison centrale de Gitega, a annoncé à l'AFP le président de la CAD Burundi, organisation qui défend les droits humains. Ces personnes resteront en prison jusqu'à leur procès, a ajouté la même source. Les Haïtiens continuent de subir les conséquences des gangs armés. Alors que le pays peine encore à rendre accessibles des soins de santé, des hôpitaux ont été contraints de suspendre leurs activités. Les quelques rares établissements qui fonctionnent sont parfois débordés avec un personnel réduit car les médecins ne peuvent pas se déplacer.
L'invité.
Radio Capi reçoit ce midi l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, le premier avocat général Essa Bekamulete, dont les missions sont de contrôler la régularité du fonctionnement de la justice et des services pénitentiaires. Il nous parle des causes de la surpopulation carcérale de la prison centrale de Makala, des solutions préconisées et de ce qu'il faut pour les décisions judiciaires non exécutées. Essa Bekamulete répond aux questions de Jeff Ngoy.
Monsieur Essa Bekamulete, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Des gens, des pensionnaires à la prison mère, de l'étouffement, puisqu'il n'y a pas assez d'espace. Est-ce qu'on manque un cadre juridique, une politique nationale cohérente pour bien gérer nos maisons de détention?
L'État congolais ne peut pas manquer une politique pénitentiaire en cette matière. Et je pense que la Constitution fixe les règles. D'abord en ce qui concerne l'arrestation. La Constitution, en son article 17, dit ceci, la liberté sacrée, c'est la règle, la détention est l'exception. Là, ça concerne essentiellement les magistrats qui arrêtent et en ce qui concerne les magistrats qui sont appelés à juger. L'article 19 dit que toute personne a le droit de voir son dossier être examiné dans un délai raisonnable. La prison centrale de Makala, c'est une prison qui a été créée à l'époque coloniale pour une capacité de 1500 personnes et pour une population aussi réduite. La ville de Kinshasa a aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants et avec aussi un taux de criminalité très élevé. Malheureusement aussi, pendant une période donnée, les infrastructures pénitentiaires n'ont pas suivi ce rythme-là de la croissance de la population.
Mais nous avons une ordonnance loi numéro 344 à travers l'article 5 qui définit le ressort de la prison centrale de Makala qui est du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 30 juridictions et parquets de Kinshasa déversent des personnes à la prison centrale de Makala. Pourquoi ne pas appliquer cette ordonnance?
Dire aujourd'hui que la prison centrale de Makala ne doit être utilisé exclusivement que par le ressort de la cour d'appel de la Gombe. On va se demander où on va mettre les personnes arrêtées dans le ressort de la cour d'appel de Kinshasa Matete. C'est ce qui fait que cette prison sert pour toute la ville de Kinshasa.
Mais qu'est-ce que vous faites des habits dont sont acquisés certains magistrats qui arrêtent les gens pour n'importe quoi et les envoient à la prison sans envoyer leur dossier en fixation devant les cours et tribunaux? Et on les oublie.
Oui, en fait, le problème se pose à ce niveau, c'est le respect de la politique gouvernementale. Les magistrats ne respectent pas. Il arrive que des personnes, pour des faits pour lesquels elles ne peuvent pas être arrêtées, se retrouvent en prison. Ça, c'est une réalité.
Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous constatez cela?
À notre niveau, c'est difficile de le constater à tout moment parce que le contrôle de la prison, selon l'ordonnance qui organise le régime pénitentiaire, le contrôle de la prison devrait se faire périodiquement par les magistrats du ministère public. Eux, ils le font pas. Voilà encore un mal. Nous, on intervient que d'une manière occasionnelle. Comme pour le moment, il y a une équipe que j'ai dépêché, ça fait au moins 2 semaines et demie, à la prison pour, examiner de fond en comble la situation de chaque détenu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Ils sont maintenant à plus de 12 000. C'est pas facile.